Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie de Christina. Bonjour Christina.
Bonjour.
J'essayais tout à l'heure de retracer notre historique, donc comment on s'est rencontrés, pour pouvoir dire quelques mots sur le fait qu'on se connaît déjà, ce qui n'est pas le cas de toutes les invitées. Et en fait, ne sachant pas retracer ce fil, tu me dis, mais en fait, que visiblement, Christina a l'air de savoir où est-ce qu'on s'est vu pour la première fois. Est-ce que tu veux me remettre ça en mémoire?
Oui, bien sûr, parce que c'était vraiment un moment très, très spécial pour moi. C'était lors d'un village matriarcal, c'était dans le salon de la maman de Roxane. Je sais que pas mal de gens ont parlé de Roxane déjà. Et moi, je suis venue avec Erotea, qui à l'époque était vraiment toute bébé. Mmh. Elle avait quelques mois. Mmh. C'était en hiver 2022. Et c'était vraiment mon début de maternité. Je suis venue avec ce tout petit bébé. La route était compliquée. Je suis arrivée vraiment stressée. Mais finalement, je suis là avec mon bébé. Et il y a plein de mamans que je ne connais pas. Et d'ailleurs, mon souvenir de toi et de Cerise, c'est que tu l'allaitais et elle s'est endormie au sein. Et pour moi... elle avait peut-être 2 ans, tu vas me dire un truc comme ça. Mais pour moi, elle était grande, vu que j'avais un... tout petit bébé dans les bras, et quand j'ai vu ça, enfin quand je l'ai vu vraiment rentrer dans un sommeil hyper profond dans tes bras, allaiter et tout, moi je pensais que ça c'est une période toute courte dans la vie d'un bébé et d'une maman, donc que j'allais vivre ça pendant, je sais pas, quelques semaines. Mon Dieu, ouais.
Si tu avais su.
Ouais, si j'avais su qu'on allait aujourd'hui toujours être là. Je me suis dit, waouh, chouette, c'est possible plus tard d'avoir ce lien, de pouvoir les nourrir et qu'ils s'endorment au sein, dans nos bras. Enfin, j'avais trouvé ça trop génial. Et d'ailleurs, je pensais que c'était tellement pas courant. Et puis après, j'ai découvert que voilà, il y a plein d'autres mamans qui font ça plus longtemps, etc. Mais je me souviens de cette image de Cerise à mes yeux, bien grande, dans tes bras. Complètement comblée par ton lait, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette.
Trop chouette, bah merci de resituer ça, ça me touche, voilà, et pour l'information, c'est toujours le cas, hein. Donc c'est vrai, hein, si on est avec un groupe d'amis et tout, je vais pas l'accoucher, que j'ai pas envie de l'accoucher dans son lit, elle vient contre moi, elle s'endort toujours au sein à 3 ans.
La façon la plus efficace. Ouais.
Voilà, j'ai plus de seins, mais ça fonctionne toujours. Non, j'en ai toujours, mais c'est juste qu'ils ont beaucoup changé. Bon, et bah écoute, merci d'avoir resitué un petit peu, c'est très chouette. Alors maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que tu veux te présenter de la façon dont tu le souhaites aujourd'hui?
Ouais, je m'appelle Christina et je suis d'origine grecque. Ça fait 12-13 ans, depuis que j'ai déménagé en Belgique. Je fais une petite pause pour aller en Angleterre, mais ça fait un bon moment que je suis ici. Et... voilà, donc du coup, quelque part, j'ai mon origine que je redécouvre actuellement. J'ai fait des études de biologie. J'ai un doctorat en biomédecine. C'est trop drôle parce que j'ai l'impression que c'est une autre vie maintenant. Donc j'ai ce côté un peu scientifique en moi qui reste, mais que j'ai beaucoup mis en question ces dernières années. Et j'ai un côté... je veux dire physique, corporelle. J'étais toujours dans le sport, la danse, après le yoga. Je fais beaucoup d'acrobatie, j'ai en niveau aussi semi-pro. Donc voilà, il y a ce deux mondes qui se mélangent un petit peu. Donc à travers le mouvement, j'ai découvert aussi un monde spirituel qui est souvent... qui se met en contradiction avec mon côté scientifique, donc je trouve l'équilibre très, très intéressant en fait.
Est-ce que tu veux nous raconter maintenant les prémices de l'arrivée de Erotera ? Je le dis bien ?
Erotera.
Erotera, hein, tu vois, Erotera. Erotera. À quel moment est-ce que vous avez eu un désir d'enfant, s'il y a eu ? Est-ce que tu te projetais dans la maternité avant qu'elle arrive ? Dans quel contexte est-ce qu'elle est arrivée ?
Ah bah en fait pour moi la question de la maternité c'était un peu un sujet difficile pendant très 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 longtemps parce que je suis fille unique et j'ai eu une enfance très difficile, une relation avec ma mère très compliquée, je me suis vraiment sentie pas protégée par elle. Et du coup, ça a mis en question mon désir d'enfant. J'avais peur de ne pas pouvoir être une bonne mère, vu que mon exemple dans la maternité, c'était elle. Et que souvent, les gens nous disent qu'on se ressemble. Physiquement, c'est le cas. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça, alors que c'est bien vrai. Et j'ai pris beaucoup d'elle aussi. Elle a beaucoup de bons côtés, mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire ce tri. Donc du coup, tout ce qui était à ma mère, je le rejetais pendant longtemps, on va dire. Donc pour moi, je ne me voyais pas forcément devenir mère, mais ce n'était pas ma propre voie. C'était plus ce que je croyais par rapport à moi, et je ne m'écoutais pas en fait, je ne me laissais pas écouter s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui faisait que j'allais avoir envie. J'ai laissé le temps passer un petit peu, j'ai fait beaucoup beaucoup de travail sur moi, beaucoup de travail par rapport à tout ce que j'avais vécu, parce que Je veux le dire parce que c'est quelque chose que je partage maintenant parce que j'ai l'impression que c'est très important, mais dans ma famille, j'étais victime d'abus sexuels et c'était ma mère qui était au courant de tout ça. C'était l'homme de ma mère, l'agresseur, enfin mon agresseur. Et donc du coup, ça a mis en question toute ma relation à la fois avec les femmes, avec les hommes, avec mon corps. Donc c'était vraiment... Enfin, ça a touché à tout. Et donc, du coup, j'ai fait mon chemin d'essayer d'avoir de relations avec moi-même, saines, avec les autres, avoir confiance aux autres, etc. Et c'est là-dedans que j'ai découvert aussi l'acrobatie, le yoga. Le yoga, c'était plutôt le côté se centrer vers soi. Et l'acrobatie, c'était... Enfin, c'est vraiment... Parce que je fais de l'acroportée, c'est vraiment faire confiance à l'autre. Je me souviens en sortir des cours au début, vraiment hyper, presque en choc, parce que je voyais devant moi cette question, est-ce que tu vas faire confiance à la vie, aux autres, ou est-ce que tu vas rester dans ta bulle comme tu l'as bien fait pendant longtemps, mais ça ne te sert plus. Et donc, je vivais ma vie un petit peu, je ne me projetais pas forcément dans la maternité, si tu veux, mais j'avais toujours un côté très, très, très maternant envers... mes amis, j'adore prendre soin des autres, j'ai une chienne depuis 16 ans, j'ai plein de plantes, j'ai cette envie à moi et ça me remplit de plaisir de prendre soin des autres. Donc quelque part c'était un peu bizarre quand je parlais avec des amis, quand je disais moi les enfants, je sais pas, parce qu'ils voyaient très bien tout le reste. Et à un moment donné j'ai rencontré mon homme, qui lui est fils unique aussi, mais qui d'une famille compliquée aussi, mais qui se voyait avoir une famille à un moment donné. Moi, pas beaucoup à cette époque-là, mais on a construit quelque chose de très fort ensemble. Et à un moment donné, on a voulu laisser la vie s'inviter, si elle le souhaitait aussi. Je sais que je lui avais dit que je n'étais pas du tout prête à passer par de la PMA, par exemple, parce que c'est un sujet qui est très proche à mes études et je ne voulais pas d'insémination artificielle, etc. Parce que personnellement, je connais beaucoup trop pour le vouloir pour mon corps à moi. Donc je lui avais dit à un moment donné, écoute, si moi je suis pas prête à faire ça, je le ferai pas, c'est mon choix personnel. Donc si un enfant ne vient pas de manière naturelle, on va adopter. Lui par contre, il ne voulait pas, mais on s'était arrêté là, on s'était dit qu'on voulait bien à un moment donné, mais que on allait voir la façon dont cette vie allait se présenter à nous.
Et comment s'est-elle présentée? Enfin, c'est arrivé au bout de combien de temps après cette décision de laisser la vie émerger?
Ben en fait, il faut dire que moi, bien comme beaucoup trop de femmes, je prenais la pilule. Mmh. J'ai pris la pilule pendant presque 12 ans. C'est vraiment triste maintenant quand j'y pense, toutes ces hormones que j'ai filées à mon corps, mais... Voilà, c'était un petit peu à 18 ans, le check-up gynéco. Ah, t'as des kystes ovariennes, t'as des règles irrégulières. Bon, de toute façon, t'as des rapports. Hop, la pilule, et on n'en parle pas. Et j'ai continué, même si j'avais eu des moments, notamment quand j'ai déménagé en Angleterre, qu'il fallait changer un petit peu la marque. J'avais pris l'équivalent, si tu veux, mais c'était pas à 100% la même chose. Je me souviens d'avoir eu des nausées, mais vraiment, il fallait... J'allais à l'université, il fallait que je m'arrête et que j'ai dû vomir à l'arrêt du bus. Et j'ai dû prendre le bus suivant parce que tellement cette pilule équivalente à ce que je prenais n'était pas du tout reconnue par mon corps. Mais bon, tout ça, j'avais mis de côté. De toute façon, il fallait un moyen de contraception. Et de toute façon, j'avais des kystes, donc... qui allait se résoudre, comme on dit, par la pilule, ben, n'importe quoi aussi. Mmh. Donc j'ai continué avec ça pendant longtemps, mais ça me travaillait, parce que je suis très consciente par rapport à mon corps, mon alimentation, le mouvement, etc. Donc ça faisait un moment que je disais à mon homme, je ne suis pas contente de prendre des hormones, mais on ne voyait pas trop comment faire, parce que le stérilet... avoir une inflammation constante au niveau de l'utérus, hein, non plus ça ne me parle pas, donc je ne voyais pas trop une manière vraiment hyper sécurisée à l'époque, parce qu'on n'était pas prêt de se lancer, qui allait aussi me permettre de ne plus prendre les hormones. Mais à un moment donné, j'ai dit stop à la pilule, et on a mis 2 ans avant d'avoir Erotea. On a essayé, on a pris vraiment large niveau... sécurité par rapport à mon cycle que je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune mémoire de ça. Je me souviens de me dire qu'est-ce que mon corps va faire quand j'arrête la pilule. Est-ce qu'il va se souvenir de quelque chose. Enfin, j'avais tels doutes. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner. Donc au début, c'était un petit peu l'excitation et des doutes par rapport à comment est-ce que ça allait se passer, les règles et tout ça. Et puis j'ai commencé à observer, j'ai vu que j'avais un cycle long. Et à nouveau, la gynéco qui m'a mis l'idée de « Ah, c'est pas du tout normal », alors que je dépassais pas les 35 jours, mais voilà. Bon, je venais de sortir aussi d'une période hyper longue sous la pilule, donc... Bref, mais tout ça pour me mettre à nouveau dans l'esprit que mon corps, il ne faisait pas bien son job, et que... probablement, sans aucune preuve en plus, elle m'avait dit que probablement j'ai même pas une ovulation, que les saignements que je vois, c'est des fausses ovulations, et que de temps en temps, peut-être une fois tous les quelques mois, j'ovule. Donc moi, dans ma tête, j'étais vraiment loin de pouvoir concevoir un enfant. Je me disais, mais waouh, ça va être un jackpot si jamais ça m'arrive. À un moment donné aussi, j'avais des saignements pendant 40 jours. Je me souviens de l'avoir vu juste pour lui demander, c'était pas... Enfin, lui demander qu'est-ce que vous pensez que mon corps est en train de me dire et comment est-ce que je peux mieux le comprendre et mieux l'aider, parce que 40 jours de sang, c'est pas normal. Et elle était limite agressive, genre « qu'est-ce que vous voulez ici ? Je vous ai dit, vous avez des kystes ovariennes, si vous voulez bébé, vous allez chez vous, vous essayez plein de fois, ça va peut-être prendre hyper longtemps, Et d'ailleurs, ne vous plaignez pas parce que vous n'êtes pas grosse, vous n'avez pas de l'acné et vous n'êtes pas poilue. Donc, c'était vraiment ça. Donc, je rentre à la maison, genre, plus jamais de la vie, je la vois, cette femme. Et c'est une obstétricienne aussi assez réputée dans un hôpital de Bruxelles. Mais c'était genre, j'y vais plus jamais. Et c'était bien le cas. Donc, j'ai travaillé avec un naturopathe. Je me suis dit, non, il y a quand même quelque chose au niveau hormonal. Il faut aller chercher plus loin. Et c'est peut-être pas la pilule magique que je vais découvrir. Genre, tu prends ça et ça résout tout. Mais j'ai envie de faire ce travail-là. Il est hyper important. C'est mon corps. Enfin, je le mérite. Et c'était magique quand j'ai vu ce naturopathe. Il a pris le temps. C'était un homme pourtant. Enfin, je le précise parce qu'on a plus l'habitude d'être à l'écoute avec une femme, mais c'était un homme qui m'a posé plein de questions pendant une heure et demie, qui m'a fait quelques petits tests à droite, à gauche, qui m'a dit que, voilà, par rapport à ce qu'il pense, par rapport à mon profil, il avait deux plantes en tête, mais qu'il fallait se projeter dans un suivi en long terme, peut-être que si c'était pas ces deux plantes-là qui allaient faire un effet niveau hormonal, qu'on allait essayer autre chose. Mais il ne m'a pas laissé genre, vous n'avez rien à faire, vous retournez chez vous, vous faites ce qu'il faut avec votre partenaire, vous priez, j'en sais rien, et vous attendez. C'était vraiment, non, il y a des choses à améliorer pour tout le monde, et on trouvera bien. Donc ça m'a rempli d'espoir quelque part de l'avoir vu. Et c'était vraiment magique. J'ai pris ces deux plantes en gémothérapie. C'était deux bourgeons. Et c'est comme si, depuis le premier mois, j'ai ressenti mon corps fonctionner comme jamais.
Incroyable. Tu veux les nommer alors
J'avais pris du figuier et je pense du... Je ne sais pas si c'était du cassis.
Oh. Ok.
Et, ouais. Et aussi, à côté de ça, enfin, il avait travaillé sur tout le côté émotionnel parce qu'en faisant ça, je me disais que je suis en train de me faire du bien, que j'essaye, que j'ai mis tout en place pour aller mieux en fait. Donc je pense que ça avait aidé beaucoup parce que quand j'ai vu cette gynéco, ben, mon moral il était à zéro. Et même si elle m'avait, enfin si, même si elle m'aurait filé, je sais pas, des trucs bien, je ne sais même pas si ça avait marché tellement elle m'avait rabaisser le moral que... Voilà. Donc, c'était un ensemble, je pense. C'était aussi le début de printemps. On avait planifié de chouettes vacances en Grèce pour l'été prochain. Enfin, c'était... Enfin, il y avait plein de trucs à venir auxquels je pensais. Et d'un coup, enfin, je commence à sentir que mon cycle, il devient régulier. Donc, j'ai plus... Enfin, j'ai un cycle qui est plus long. Je commence à lire aussi et à comprendre que c'est tout à fait normal, que voilà, ce stéréotype de l'ovulation au 10e, 14e jour, bon, ça correspond à peu de femmes, etc., et à pas tout le monde. Et non, en fait, je suis revenue voir cette gynéco une dernière fois, parce que je voulais la confirmation de ce travail que j'avais fait avec le naturopathe, parce que la gynéco m'avait dit que... Et vous allez voir qu'à un moment donné, les kystes vont peut-être disparaître et voilà, ça sera comme ça. Et je le sentais, qu'il n'avait plus rien, alors qu'on m'avait mis dans le groupe de kystes ovariennes, alors qu'on n'a jamais fait de test d'hormones, de testostérone, ni rien. Donc que sur base de, ah vous avez un cycle long, vous avez une image de kyste dans une des deux ovaires, voilà, vous avez le syndrome. Ce qui est complètement faux. Donc, je suis rentrée la voir pour une dernière échographie. Comme par hasard, c'était magique. Mes ovaires étaient hyper propres. Et je vois même que vous allez ovuler dans quelques jours, etc. Donc, allez, rentrez chez vous, essayez avec votre copain, etc. Donc, elle pensait que, voilà, elle m'avait résolu le problème. Donc, je rentre à la maison avec cette information. Je me dis, plus jamais je la vois. Je le savais qu'il n'y avait plus rien, que j'étais clean à partir de ce moment-là. Forcément, je ne sais même pas si j'avais en tête d'essayer tout de suite, mais moi, ça me suffisait que mon corps fonctionnait, que j'avais repris la confiance de « eh ben, j'ai une ovulation, j'ai un cycle régulier ». Et donc là, j'ai commencé à me renseigner en symptothermie. Et ça a écroulé 10 ans d'études en biologie, tout ce que j'apprenais dans ce livre par rapport à mon corps, moi qui avais fait un doctorat en biologie, que je connaissais la physiologie... Alors, c'est scandaleux, vraiment scandaleux, toutes les choses qu'on n'apprend pas sur le corps humain, enfin d'une femme, parce qu'on n'est pas les mêmes. Donc j'étais là à lire ce bouquin et à me dire, mais c'est si simple en fait. Mais on ne l'enseigne pas, on n'apprend pas à nos filles, on ne l'apprend pas à l'adolescence pour reconnaître les signes d'ovulation, de règles, etc. Des différentes phases du cycle. Et qu'est-ce que ça aurait été simple si j'avais eu cette information et cette pratique pendant toutes ces années que je prenais la pilule. J'étais enragée, vraiment enragée contre moi-même, le système et tout le monde. Et donc du coup, j'ai mis en place un petit tableau et j'ai dit aussi à mon homme que, ok, pour une fois là maintenant, tu peux participer à ça. Parce que c'est pas mon problème, la fertilité. Enfin, c'est un truc à deux et c'est pas... Toi, t'es fertile tous les jours d'ailleurs. Et c'est moi qui dois prendre la pilule alors que je suis fertile pendant 2-3 jours maximum par mois. Voilà, donc j'avais fait un tableau que j'avais mis dans les toilettes. Je lui avais expliqué quelques trucs. Je me suis acheté un thermomètre. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'aide le matin à prendre ma température avant de me lever, etc. Mais au début, je voyais ça un peu comme un jeu. J'étais très curieuse de me dire, ah ben oui, ça fonctionne et c'est mon jour d'ovulation. Enfin, j'avais très hâte de vivre ça. En plus, je lisais des femmes qui sentaient, je ne sais pas, que ça tiraillait dans les ovaires. Je me disais, waouh, est-ce qu'on peut avoir un niveau de conscience pareil? Je me disais, oh, c'est incroyable. Et à la fois, j'avais envie de laisser mon corps faire la même chose. Et donc du coup, le premier mois que j'ai vraiment bien noté, et je regardais aussi les glaires, avec pareil curiosité, à me dire tous les matins, ah ça ressemble à quoi, c'est quoi, la position du col, ça je trouvais plus compliqué à faire et à reconnaître. Et donc quand j'ai noté, c'était le premier mois que vraiment j'ai noté tout bien, le jour où je pensais que c'était mon jour d'ovulation, je le dis à mon copain, mais lui, il dit qu'il se souvient même pas. Mais ça nous arrive souvent que moi, je dis un truc, lui, il m'écoute même pas. Donc, il dit qu'il n'était pas au courant, en fait. Et ces jours-là, il était un peu malade aussi. Donc maintenant, il n'arrête pas de me dire que j'ai profité de lui alors qu'il était malade et que je savais que j'ovulais. Enfin bref, c'est un peu l'anecdote de l'arrivée d'Erotea. Mais on a fait l'amour et moi, j'avais derrière... J'avais envie aussi, mais j'avais derrière cette idée, ah, j'ai peut-être, ou ça s'approche, ou je suis en train d'ovuler, enfin je ne savais pas exactement. Et puis on a complètement oublié, parce que la petite maladie qu'il avait, c'était le Covid, finalement. Ah. On a pu le choper 2 ans après, parce qu'on le voulait. On a vraiment essayé de le choper, mais ça n'arrivait pas, ça a mis très longtemps. Donc, on a complètement oublié parce qu'on a passé 2 semaines à être bien malade, avec beaucoup, beaucoup de fièvre. En même temps, on a chopé le Covid 4 jours avant notre mariage civil. Donc, ma famille de Grèce est venue en Belgique parce qu'on attendait le test PCR, mais eux, ils avaient leur vol, donc ils voulaient quand même venir. Si jamais on était négatif, ils ne voulaient pas rater le mariage, donc ils nous ont dit, on vient quand même. Et si vous ne vous mariez pas, ok, on est là. Donc c'était un peu, c'était absurde, parce que voilà, on avait, à cette époque-là, mon père, il a des contacts avec ma grand-mère, donc on les a vus dans le parc, c'était toute cette période-là folle, complètement du Covid. Bref. Donc, on a complètement mis de côté. Moi, j'y ai pas pensé du tout parce que, voilà, on était bien malades. Et après qu'on s'est senti à nouveau bien, moi, je me suis dit, ah, j'ai pas mes règles. Ok, j'ai pas mes règles, quelques jours en plus. Et au tout début, j'ai pas fait le lien avec l'ovulation. J'avais arrêté de prendre la température vu que j'avais de la température, de la fièvre par le Covid. Et je me suis dit aussi, c'était quand même assez... On était quand même assez malade, donc je me suis dit, ça a tué tout. Ouais. Enfin, je ne m'y attendais pas à ce que un embryon puisse survivre tout ça. Et puis quelques jours après, je regarde à nouveau mon tableau pour recommencer mon cycle. Je me dis, allez, maintenant j'ai plus de la fièvre, il faut que je me relance à la symptothermie. Je fais, ok, j'ai pas mes règles, il y a eu peut-être quelque chose. Et les jours qui ont suivi, là j'ai su. Moi, je le savais, j'ai commencé à le sentir et tout, mais j'ai attendu. Parce qu'on avait replanifié notre mariage quelques week-ends plus tard. Et je sais pas, je voulais un petit moment pour moi, je voulais, avant de l'annoncer à Bart, mais je commençais vraiment à le sentir. J'ai même commencé à sentir une présence dans le gauche de mon utérus, que j'ai pu confirmer après parce que j'ai trouvé son rythme cardiaque à cet endroit-là très 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 trop tôt pendant la grossesse, donc c'était pas que un hasard que je sentais quelque chose là-bas, mais voilà, son arrivée était un peu est venue comme ça. Son père n'était pas du tout au courant qu'on allait concevoir un bébé ce soir-là. Il était malade, il avait le Covid, c'est vraiment un bébé de Covid tout plein. Et donc voilà un petit peu. Moi, il faut dire que j'ai pas fait beaucoup de tests de grossesse dans ma vie parce que voilà, je prenais la pilule pendant hyper longtemps. Il y a eu un moment, un doute quand j'avais arrêté la pilule, mais on allait partir en vacances après mon doctorat et là, je ne voulais vraiment pas rater le voyage au Panama, donc c'était le seul test de grossesse que j'avais pris. Et donc j'imaginais un petit peu ce moment, etc. Il faut dire que j'ai quand même une interruption de grossesse à 18 ans. Donc ça, c'était vraiment... un accident, un vrai accident, et quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, un avortement à ce moment-là. Je n'étais pas du tout prête ou préparée pour ça. Mais du coup... Moi, j'étais pas trop pour faire un test de grossesse cette fois-ci, mais il y avait le mariage, il y avait ma famille qui allait arriver. Et moi, en général, je ne bois presque pas, mais je sais que pendant une fête de mariage, bon, c'était un mariage hyper intimiste, que pour la famille, on était 15 personnes, mais je sais que pour ce moment-là, on allait me filer un petit verre de champagne et que ça allait être hyper bizarre de dire non à ça et de ne pas boire deux, trois gorgées. Et aussi, on trouvait chouette de pouvoir peut-être l'annoncer à la famille, même si on savait que c'était super tôt, etc. On n'était pas du tout dans l'objectif de « on attend trois mois », on se disait « non, enfin, c'est... » C'est une nouvelle super importante pour nous et peu importe ce qui se passe par la suite, on a envie d'être entouré et on a envie de le partager avec nos proches maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai fait le test, alors que moi je le savais. Et je me souviens de sortir des toilettes et mon homme, comme tous les matins, il fait un peu de stretching, il fait un peu de méditation, donc il était par terre, c'est vraiment sa place habituelle. Et moi, je sors un peu tremblante, donc j'avais attendu de voir la ligne toute seule. Et après, je sors, je lui montre, on se câline et on pleurait, mais c'était... on se sentait prêt. Moi, je me sentais vraiment prête. Il faut dire aussi que l'été, juste avant, après d'avoir vu le naturo, etc., moi, je m'étais... je ne sais pas comment... Je pense que j'ai atterri... dans le podcast de Free Birth Society, à travers le podcast sur la sexualité de Kim Anami. Parce que les relations humaines, amoureuses, m'intéressaient énormément. Et donc, dans le podcast de Kim Anami, il y avait des épisodes avec des naissances libres. Mm-hmm. Et c'est comme ça que c'était vraiment un trou qui m'a sucé. Immédiatement, donc pendant l'été juste avant, donc on a conçu Erotea au mois d'octobre et tout l'été d'avant, moi j'écoutais que des récits de naissance libre. Et c'était bizarre parce que avant ça, j'avais presque pas de copines qui avaient d'enfants, j'étais pas du tout dans le monde de la maternité et même les récits de naissance, je ne savais pas que c'était un truc qu'on raconte, enfin on raconte pas beaucoup, je veux dire dans les cercles, si je pense à mes collègues ou dans la vie normale, on va dire, on parle pas beaucoup de ça. C'est est-ce que tout va bien, est-ce que le bébé va bien, enfin vraiment superficiel. Mais ces histoires m'avaient captivé. J'avais écouté tout le podcast en été. Donc je sentais qu'il y avait cette énergie qui me tournait autour. Donc c'est pas un hasard que Erotea est venue à ce moment-là. J'avais aussi en préconception, j'avais contacté Roxane à nouveau, Maternité Sauvage. Parce qu'elle lançait un cercle de femmes enceintes. Je lui avais dit, est-ce que par hasard tu aurais quelque chose sur la préconception? Elle m'a dit, viens, j'ouvre le cercle, je vais faire femmes enceintes et préconception. Donc on était à deux à ne pas être enceintes. Le cercle a commencé en septembre et un mois et demi après, je suis tombée enceinte. Et l'autre maman qui n'était pas encore enceinte, toutes les deux, on est tombées enceintes et on a terminé le cercle, toutes les 10 enceintes. C'était vraiment trop bien. Et donc du coup, je sentais que toutes ces choses-là se liaient un petit peu. Les podcasts notamment, avoir rencontré des vraies femmes qui racontaient leurs histoires, aussi, ça m'a... Ça, c'était vraiment ce cercle de femmes enceintes. C'était, ça continue à me porter jusqu'aujourd'hui. C'est incroyable. Parce que là-dedans, je voyais toutes les histoires que j'écoutais, mais en vrai. Et j'avais aussi la chance que j'étais la seule maman pour la première fois. Les autres avaient déjà au moins un enfant. Donc, elles revivaient ça. Et j'avais l'impression qu'elles avaient quand même plus d'expérience, une deuxième fois de le faire, etc. Donc, tous les conseils qui sortaient de ce cercle, moi, je les prenais vraiment le cœur ouvert parce que je savais que, voilà, il y avait tellement de bienveillance là-dedans et de la vraie expérience d'aujourd'hui. C'était pas ma mère ou ma grand-mère qui me disait il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'était vraiment des femmes que j'appréciais beaucoup, que je respectais énormément tant que mère. Et tout ça m'avait mis dans cette énergie de préconception, et ben voilà, ça s'est arrivé.
Est-ce que du coup, quand tu as démarré cette grossesse, qui a eu cette conception, tu pourrais dire que tu savais déjà que tu allais faire cet accouchement libre? Et voilà, où est-ce que tu en étais? Parce que tu prenais toutes ces informations, est-ce que ça t'inspirait? Est-ce que tu avais quand même des peurs? Est-ce que tu te sentais vraiment concernée? Comment tu t'appropriais ce savoir?
Ouais, c'est intéressant parce que quand j'écoutais ces histoires d'enfantement libre, elles étaient tellement justes. Ce qu'elles racontaient, c'était tellement juste par rapport aux raisons, le pourquoi, que, enfin, je ressentais ça, mais quand même le conditionnement y était, quoi. Donc je me disais, ok, ça sera ma deuxième. Comme ça, je vais faire ça. Comme ça la deuxième fois. Mais ok, je connaissais rien non plus. Donc je me disais, la première fois, j'étais sûre que j'allais accoucher à la maison. Mon compagnon aussi, elle était d'accord avec ça depuis le début. Parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de liens avec le corps médical. Ma mère a une césarienne d'enfer. Elle m'en a toujours parlé de ça, à quel point c'était traumatique pour elle, pour notre lien après. Déprimée après, un allaitement qui n'a pas duré du tout, enfin, moi des problèmes de santé hyper tôt, donc tout ça je me disais j'ai envie de m'éloigner de l'hôpital au plus possible, ça c'était sûr et certain, mais dans ma tête j'avais commencé avec cette idée, les sages-femmes sont les gardiennes de la physiologie, comme on nous apprend. Et donc du coup, je me projetais à donner naissance à la maison, avec la présence d'une sage-femme qui allait m'accompagner dans cet accouchement. Mais je voyais quand même la justesse dans les enfantements libres. Je voyais le pourquoi et ça m'attirait énormément. Je me disais, ok, t'es une novice. Attends, ne t'emballe pas trop. Je me disais aussi, tu seras jamais aussi courageuse de le faire, alors que maintenant, je le vois pas du tout comme un courage. Je le vois comme l'acte le plus naturel au monde. Ou bien quand les gens me disent que je suis perchée. Pour moi, ça ne colle pas du tout cette image-là parce que j'ai l'impression d'avoir fait le truc le plus banal qui existe depuis la nuit des temps et d'appeler ça perché ou bizarre ou hors du commun, c'est une grosse claque pour moi maintenant. Mais à l'époque, je ne me voyais pas forcément, ça me titillait, J'avais envie de le vivre à un moment donné et de vivre une première naissance la plus souveraine possible, mais quand même dans un cadre...
A priori, plus sécuritaire selon tes croyances de ce que tu avais à ce moment-là,
ouais.
C'est ça ?
Ouais. Ouais.
Alors, du coup, j'ai envie de savoir, quel a été ton cheminement ? Quelles décisions vous avez prises en couple ? Voilà, tu étais au début de ta grossesse. Raconte-nous un petit peu le fil de l'histoire.
Donc, au début de la grossesse, j'ai juste profité. Le premier trimestre, j'étais un petit peu... Ouais, fatiguée, etc. Mais on déménageait, donc je me suis pas donné le temps de le sentir vraiment, parce qu'il y avait un gros déménagement. Mais par contre, on a choisi notre maison de là où on habite maintenant avec ça en tête. Quand on est rentré, on a vu l'espace où j'allais accoucher. C'était hyper calme. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour que j'accouche à la maison. Donc, on a cherché où on allait déménager avec ça en tête. Et puis, le premier trimestre est passé tellement vite pour moi. À partir du moment où on a confirmé, on va dire, la grossesse à 5 semaines, il y avait le mariage, ma famille qui était là. On avait planifié un voyage au Portugal, le déménagement, etc., etc. On n'avait pas encore trouvé notre maison, donc on a dû chercher. Et donc tout ça, ça m'a bien occupée. J'avais pas la tête de me projeter plus loin que ça. Je voyais, enfin, déjà j'avais compris que les échographies, beaucoup trop d'échographies, ça valait pas la peine, c'était peut-être même pas une bonne idée. Donc je me suis dit, échographie du premier trimestre, je m'en fous de voir un point dans une image, bon, je le sens, il est là, on fera le prochain peut-être, qui est important, où il voit un peu tout, les organes, etc. Mais voilà, je me disais... Si j'ai des jumeaux, il n'y en a pas beaucoup dans la famille, on le saura après aussi. J'ai laissé tomber la première échographie. Je l'avais expliqué à mon copain aussi. Et on allait, une fois installé, etc., essayer de voir avec qui on allait, peut-être avec quelle équipe on allait prendre contact, etc., etc. Et petit à petit, mon homme m'a demandé, je lui dis, niveau test, je vais faire le minimum. Je ne savais pas quel était le minimum à cette époque-là, mais il était bien au courant que je n'allais pas faire la totale des tests et tout. Mais il m'a quand même demandé de faire le NIPT et j'ai accepté juste parce que je lui ai dit « Ok, t'es quand même le papa, t'as aussi un petit droit à cette grossesse. » Pas beaucoup, mais voilà. Et c'est qu'une prise de sang. S'il m'avait demandé de faire une écho juste pour voir, etc., je ne l'aurais pas fait. Mais comme c'était une prise de sang, je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, c'était la seule chose que j'avais fait à la fin du premier trimestre, après le déménagement. Et j'arrive à nouveau, une jeune femme. Bon, c'était ma généraliste, mais que je ne voyais pas beaucoup du tout. Je l'ai vue 3 fois pour avoir un papier médical pour le boulot, mais une femme qui avait mon âge, qui me voit arriver, lui annoncer que je suis enceinte, sans, le cahier médical, non, comment on appelle ça, le...
Oui, ton carnet de grossesse.
Oui, carnet médical.
Ah oui, t'es venue sans ton carnet de santé, quoi. Ça,
oui, j'avais rien, j'avais aucune preuve de grossesse, oui. selon elle,
oui.
Qui m'a dit, et comment est-ce que vous savez que vous êtes enceinte ? J'étais assez choquée, je dis, mais vous voulez que je vous dise comment qu'on a conçu, enfin je ne comprends pas votre question, j'ai fait un test de grossesse quand même, mais je le sens, j'ai tout le symptôme, je suis enceinte, et comment est-ce que vous savez le terme, etc. Je fais, pour une fois, là j'avais tout noté, je connaissais mon cycle bien, donc voilà la date d'ovulation, la date de conception. On peut prendre un jour avant, un jour après si vous voulez, mais je suis sûre et certaine, parce qu'après on avait le Covid, on n'avait pas essayé 1000 fois de concevoir, c'était un seul coup. Et qui me regarde avec les yeux comme ça, qui commence mon carnet, là ça c'est très important pour votre grossesse, vous allez tout noter là-dedans, parce que chaque médecin doit savoir ce que l'autre a fait, etc. Et moi, je sors de là, elle fait la prise de sang. Elle me dit quand même qu'il faudrait que j'aille faire l'échographie du premier trimestre parce que elle m'avait même pas donné des bonnes raisons. Parce que je dois, en fait, confirmer ma grossesse. Ça, c'était sa raison. Et moi, j'étais là, genre, mais ça, c'est pas une raison pour moi. Je sais que je suis enceinte, j'ai pas besoin de ça. Enfin, bref, je sors de là, catégorisée comme malade, parce que j'avais un carnet de santé, alors qu'avant, j'en avais pas. Donc, je me sentais malade avec mon carnet. On m'a pas cru que j'étais enceinte. On m'a traité un peu de folle de ne pas avoir vu déjà 30 médecins pour confirmer. Et quelques jours après, le laboratoire elle-même me contacte pour me dire qu'ils vont pas analyser mon sang s'il n'y a pas d'échographie.
Attends, d'où ?
Apparemment, j'ai même cherché en ligne, apparemment, parce qu'ils doivent faire le NIPT à un moment spécifique de la grossesse, ils doivent connaître le terme. Eh ben, je le connais le terme, je vous le communique. Mais en fin de compte, ils ne voulaient pas me croire. Ils voulaient croire à une échographie qui allait plus ou moins...
qui est moins précise parfois que ce que toi tu sais vraiment.
Exactement. Donc, ils voulaient ça, ils ne voulaient pas analyser mon sang. Donc, mon ami m'entend au téléphone dire « Eh, vous pouvez... allez vous faire foutre,
d'accord.
Je ne veux pas de vos tests, je ne veux pas de vos résultats, c'est bon, je suis ok sans. » Donc j'ai dit à mon homme, écoute, je voulais bien le faire ce test pour toi, même si on n'avait pas parlé de... Moi je savais que parfois tu peux avoir des faux résultats, on n'avait pas parlé de qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un enfant avec telle ou telle anomalie chromosomique. Enfin, bref, je l'avais fait parce qu'il m'a demandé et parce que c'était anodin, entre guillemets, de le faire. Mais c'était plus anodin pour moi, toute cette discussion-là. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'ai bien voulu faire pour toi, mais il n'y a pas moyen, je ne fais pas cette échographie pour cette raison à la con. Quelques jours après, surprise, ils ont analysé mon sang, ils m'envoient les résultats, j'avais bien précisé que je ne voulais pas savoir le sexe, parce que enfin, je ne voulais pas. Et je pense que c'est pour des raisons financières, parce que ce test, il coûte 300-400 euros à l'assurance, du coup, qui le couvre. Donc, je pense que, du coup, le laboratoire ne va pas se priver de 400 euros de quelqu'un qui refuse de faire son échographie. Enfin, c'est mon hypothèse à moi, parce que j'ai décroché et j'étais sûre qu'ils n'allaient pas le faire. Je n'étais pas du tout polie avec eux. En gros, j'ai dit, bah voilà, vous le prenez ou pas, bah, moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez avec mon sang. Et finalement, ils l'ont analysé, il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème au niveau de chromosomes. Mais cette expérience-là m'a quand même mis une grosse claque. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'on n'a pas le choix. Moi, je pensais qu'on avait bien plus le choix que ce qu'on pense. Que c'était un peu un buffet, qu'on avait plein de tests à faire si on voulait, si on se sentait bien, si notre médecin nous le demandait et que nous on était ok avec ça. Mais dans le cas contraire, qu'on pouvait faire marche arrière et dire non, moi je veux que ça et rien d'autre et ne me touchez pas et ne me faites pas chier. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Parce que par après, j'ai commencé à prendre contact avec des sages-femmes et là j'ai compris que sans échographie, il n'y aura pas d'échange. Déjà, le premier trimestre, il y en avait qui disaient « Ok, là, je peux fermer les yeux un petit peu, faire comme si de rien n'était, que vous avez un peu oublié de le faire. » Alors que non, je n'ai pas oublié de le faire, je ne le voulais pas. Et donc, petit à petit, il y avait des choses comme ça qui s'accumulaient, mais je me disais mais c'est fou, enfin, je ne comprenais pas au début d'où ça venait. C'était parce qu'elle ne me croyait pas, parce qu'elle voulait se protéger, enfin, un peu des deux, mais je ne t'ai pas préparée de devoir m'affronter à ça. Mais cette expérience avec le NIPT m'a quand même montré que... Moi, je pensais que j'allais un peu naviguer la zone du gris pour cette grossesse-là, mais en fait... De plus en plus, on m'a demandé d'être noir ou blanc. Et si c'était noir ou blanc, ben, pour moi, ok, ça va être vraiment noir parce que je veux pas de beige du tout. Et ça, je le savais.
Et les sages-femmes que tu as contactées, est-ce que tu veux les nommer?
J'avais pris contact avec Amala. Et je ne les ai même pas vues finalement. C'était au téléphone avec le secrétariat qui m'a fait comprendre que... Parce que j'ai écouté tellement de podcasts. j'ai l'impression que j'avais refait un doctorat vraiment en physiologie, en grossesse et tout ça. Pas parce que... c'est là vraiment mon côté, je te disais, scientifique, rencontre, mon côté curieux. Et mon côté spirituel, parce que je ressentais tout, enfin c'était tellement chouette d'étudier et vivre en même temps, et aussi d'apprendre plus sur ce que j'avais étudié pendant si longtemps et que je connaissais si peu finalement, que vraiment je bouffais les livres de grossesse, d'accouchement, l'un après l'autre. Donc quand j'arrivais où j'appelais les sages-femmes, j'avais vraiment des questions très spécifiques à poser. Vous avez besoin de combien d'échographies? Pourquoi? Test de streptocoque? Genre, vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez combien de temps après terme? Qu'est-ce que vous faites si le placenta n'est pas là après 30 minutes? Vraiment, toutes les interventions que j'entendais autour de moi et que je voulais éviter. Et quand j'avais des réponses... c'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire l'échographie, il faut la faire, point. Moi, des réponses comme ça me suffisait pas du tout, quand c'était pas vraiment basé sur je sais pas, un fait réel. Il y en a pas, mais donc c'était pas, enfin je trouvais pas ça, ça ne répondait pas à mes questions vraiment, et c'était plus je me sentais petit à petit que je prenais contact avec ces sages-femmes un peu pour faire le cheminement que moi je pensais nécessaire, avoir interrogé les parties, les groupes qui font partie dans les naissances, de répondre à la demande de mon homme qui, lui, la naissance libre, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Il flippait à chaque fois que moi je parlais de ça et tout. Mais au fil du temps, alors que j'avais déjà demandé autour de moi la plus perchée de sage-femme, la plus libérale de sage-femme, on m'avait parlé d'une nana qui a fait des accouchements en Afrique pendant 20 ans, qui vient avec son camion devant chez toi, qui veut aucune échographie, j'en avais trouvé une comme ça. Mais même elle, je la sentais, à nouveau au téléphone, je ne l'ai jamais vue en vrai, je la sentais quand même, vraiment, elle avait un côté autoritaire. Je connais mieux que toi, parce que j'ai cette expérience-là. Et il y a des cas où j'avais utilisé mon autorité pour prendre des décisions pour toi. Alors que moi, c'était exactement ce que je ne voulais pas. Et au plus je voyais ça, au plus je me voyais... Enfin, je disais à mon homme, « Ok, on va prendre une sage-femme. Tu vas être enfermée avec elle dans une pièce. Moi, je vais être à côté à faire mon truc. » Vous n'allez pas avoir le droit de mettre un pied dedans, parce qu'au final, elle sera là pour te rassurer à toi. Donc, elle sera ta sage-femme à toi, tu l'as choisie toi, elle parle la langue que tu veux toi, parce qu'on avait ces discussions là aussi, lui il parle flamand, nous entre nous c'est anglais, moi j'étais ok avec une francophone, lui pas, elle me disait dans un cas de panique, moi je peux pas, enfin le français c'est pas ce qui me vient le plus naturellement. Donc je dis, tu fais, toi, ton job description, tu embauches ta sage-femme à toi, vous restez à côté, vous me laissez tranquille, parce que moi, je voyais les sages-femmes petit à petit plus comme un... Elles me faisaient peur, en fait. J'avais l'impression que je devais me protéger d'elles, plutôt que d'avoir invité une personne qui sera à mes côtés, qui allait me soutenir à moi de la façon dont je le voulais, moi. Donc ça me rajoutait un stress en plus de mettre des limites à cette personne-là que moi-même j'invitais chez moi. Donc c'était de boulot en plus plutôt que d'être dans mon calme. Et donc c'était comme ça un petit peu ce qui s'est passé petit à petit. Petit à petit, le temps de la deuxième échographie est arrivé. j'avais ce merveilleux cercle de grossesse qui continuait. Et là, j'avais vu tous les exemples d'accouchements possibles. Il y avait deux femmes qui voulaient aller à l'hôpital, qui connaissaient quand même leurs droits, les autres options, mais qui se sentaient bien à l'hôpital. Mais j'avais vu aussi le stress des échographies. Il n'y en avait pas une, il y en avait plusieurs qui venaient après les échos à pleurer, à trembler, à nous dire que oh, on a peut-être vu ça. Et le mois d'après, quand on revisitait ça, elles disaient « Ah mais non, finalement, c'était rien. Mais la prochaine visite chez les gynécos, j'y suis crispée de ouf. » Et donc, elles vivaient une grossesse, mais hyper stressante. Et moi, je flottais. J'étais heureuse, j'étais bien. Et je les voyais, elles, qui étaient censées être plus en sécurité que moi parce qu'elles connaissaient, elles savaient, elles avaient les informations que moi, je ne les avais pas. Ah ben finalement, ça ne les aidait pas du tout, quelque part, d'avoir eu cette info. Donc, je me suis dit, non, je n'ai pas envie d'avoir des échographies, sauf si, moi, je ressens le besoin. Parce que, moi-même, il y a une réponse qu'il me faut. Là, je ferai une échographie. Donc, ce n'était pas genre, jamais de la vie, je ferai une écho, mais c'était, je les ferai quand moi, j'en ai besoin de quelque chose, de savoir quelque chose. Et pas parce que le schéma médical me dit qu'à tel et tel moment, il faut calculer combien de doigts, etc. et la position, nanani, nanana. Donc, ça a vraiment tué toutes mes chances d'avoir une sage-femme, finalement, parce que là, il y a personne qui le veut, même la sage-femme qui fait les accouchements en Afrique, elle m'a dit quand même une dernière échographie, genre juste avant le jour J, pour voir que tout va bien, etc. Donc finalement, tout le monde voulait avoir une petite information ou une image de l'intérieur de mon ventre, alors que moi, je n'avais pas du tout envie de le faire. Je t'ai dit, le premier trimestre est passé, j'ai pas compris. Alors le deuxième trimestre, alors que je me sentais tellement bien dans mon corps, je me sentais belle, libido de malade. En fait, c'est la seule et première fois de ma vie où je me trouvais belle. J'adorais être enceinte, j'avais hâte que mon ventre sorte parce que enfin, ça a mis beaucoup de temps. J'étais hyper active, enfin, je pétais la forme, mais vraiment, dans tous les niveaux. Mais niveau couple, c'était compliqué. Enfin, ce sujet de qu'est-ce qu'on fait par rapport à la naissance, ça devenait compliqué parce que moi, j'essayais de balancer des récits de naissance à mon homme, mais forcément, tout ce que j'avais lu moi-même, il n'allait jamais mettre le temps de lire lui-même, et ce n'était pas important non plus. Donc, j'essayais parfois de résumer, de le guider, « Ok, écoute ça, tel épisode, ou nanana, ou trouver un petit peu les épisodes où peut-être il y avait le côté de l'homme, où c'était un petit peu plus scientifique, et pas que ce que je ressentais, moi, dans mon cœur de maman et de femme, parce que je sais que là, il n'allait pas accrocher avec tout ça. Mais on avait en boucle ces discussions de « Ok, mais qui sera responsable de nommer le problème, s'il y a un problème le jour J ? Qui sera le responsable de dire « Ok, maintenant, on embarque, on va à l'hôpital. Où il y a un truc qui ne va pas ?» Lui, il se projetait dans ce rôle-là, alors que c'était moi, je ne l'avais pas demandé, qu'il soit la personne qui veille sur ce qui ne va pas. Mais tant qu'homme, il pensait que c'était son rôle à lui si on n'avait pas une autre personne à côté de nous. Donc, on a mis beaucoup de temps à ressortir de ces schémas. Et c'était drôle parce qu'en fait, on a eu des discussions vraiment très intéressantes. Où Bart, avec beaucoup de vulnérabilité, il m'expliquait que je vois bien d'où tu viens. Parce que je lui disais, c'est moi cette autorité. Comme quand je suis malade, il y avait une seule fois où j'avais une gastro, mais tellement violente, que je lui dis, tellement de fièvre, la totale, je lui dis, le moment où je ne peux plus faire pipi pendant 2 heures, je te demande de m'amener à l'hôpital juste pour avoir du liquide directement en perfusion, quoi. Mais voilà, j'étais hyper malade et je gérais quand même. Je savais que tant qu'il y a du liquide qui passe dans mon corps, on reste à la maison, même si J'étais au bout de ma vie. Mmh. Et je lui dis, tu te souviens de ce moment-là où j'étais si malade, mais je savais quand même quand est-ce que c'était le bon moment de m'amener à l'hôpital. Finalement, on n'est pas parti, mais voilà, ça va être la même chose. Je veux savoir, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je veux te le dire et on y va. Mais oui, mais j'entends quand même que c'est tellement un état altéré. Il avait raison. Il avait raison de se poser cette question-là, que moi, je n'allais pas être juste normale comme dans un moment normal. Est-ce que tu sauras le dire à ce moment-là? Donc, c'était vraiment son discours intérieur à lui. Et à côté de ça, il y a le côté de mon caractère. J'ai un caractère très fort et je suis assez têtue. Et donc il me disait, comment est-ce que je sais que cette idée-là que tu t'es mise en tête maintenant, c'est pas juste toi qui es têtue et que c'est vraiment ce qui est juste pour toi? Je lui dis, j'ai pas d'argument, mais si c'est pas juste pour moi, à un moment donné, je vais avoir peur et je vais abandonner ce projet de naissance libre. Si je ne suis pas assez forte dans mon ressenti et ma confiance en moi d'être seule, à un moment donné, ça va se voir, ça va se sentir et je vais dire, ok, stop là, on change de voie, on prend quelqu'un parce que je le sens plus. Donc je lui avais dit, jusqu'à ce que l'envers se prouve, t'as qu'à me croire en fait, que là, en ce moment, aujourd'hui, je me sens capable de le faire. Et je sais que je saurai quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que petit à petit, quand même, je t'ai dit que je sentais une présence à gauche de mon utérus et j'avais acheté un fœtoscope qui venait des États-Unis, pas du tout facile à trouver en Europe, pour écouter le cœur du bébé. Et normalement, on dit à partir de la 20e semaine, et c'est encore tôt, parce qu'on ne connaît pas la position, etc. Parce que moi, je sentais tellement cette présence, j'ai trouvé son rythme cardiaque à 17-18 semaines hyper facilement parce que j'ai cherché vraiment la zone où je sentais ce petit bébé, le nid de ce petit bébé. Et après, à 5 mois, j'ai senti la position, qu'elle était la tête en bas, j'ai senti que j'avais le dos à droite et les pieds à gauche, j'ai senti qu'elle s'est jamais retournée de là. Et petit à petit, il y avait ces confirmations-là où je me disais, mais waouh, qu'en fait, on sent tout. Parce que moi, je pensais, on n'a aucune idée où est bébé, on doit le voir dans une échographie. Et moi, j'étais un bébé en siège et j'avais quelque part, à l'arrière de ma tête, que peut-être mon histoire allait se reproduire pour voir comment est-ce que je vais gérer ça différemment de ma maman. Donc au début, je me disais, est-ce que ce petit bébé va être aussi en siège? Mais c'était tellement clair, et petit à petit, enfin je n'osais pas, au début je disais, j'ai l'impression de sentir une petite présence, j'ai l'impression que la tête est en bas, mais en fait c'était tellement clair, mais je continuais à me douter, parce que c'est une première fois, et aussi je me disais, comment est-ce que toutes les autres femmes ne le savent pas, elles doivent le voir, alors que moi, enfin je me prends pour qui de le sentir, enfin, je ne me sentais pas légitime quelque part. Mais petit à petit, quand j'exprimais ça à mon homme, et que bon, après le ventre était plus grand, il a pu aussi sentir, il fait aussi du travail manuel, donc quand je lui ai expliqué, ici tu vas sentir les fesses, les pieds, ça avait du sens pour lui, c'était pas si compliqué que ça. Donc petit à petit, il avait commencé à faire confiance à mon ressenti, et le côté réel qui lui-même pourrait aussi... pas voir, mais toucher, sentir, etc. Au tout début, c'était de la présence dans mon utérus. Bon, ça, il n'aurait pas pu confirmer, sauf si j'avais fait cette fameuse écho. Mais petit à petit, ça devenait plus clair pour lui aussi que mon ressenti n'était pas complètement à l'ouest, mais que, voilà, quand il touchait, c'était vraiment ce que je ressentais. Il était là. Donc, il a commencé à se dire, ouais, finalement, elle a une conscience quand même assez importante. Elle connaît très bien, elle a une très bonne connexion avec son corps, avec ce bébé. J'ai passé aussi beaucoup de temps à la toucher, sentir son cœur de temps en temps. Je faisais beaucoup de rituels avec d'autres femmes. J'ai vraiment fait la totale pour cette grossesse. Mais cette question revenait de qui va être la personne qui va décider quand est-ce que c'est le moment de partir à l'hôpital. Et moi, ça m'usait vraiment. C'était vers la fin du deuxième trimestre, on était toujours nulle part avec ça. On le répétait en boucle. Et moi, j'avais un petit peu fait le tour des sages-femmes, si tu veux, juste pour lui prouver que ça n'allait pas. Parce qu'à chaque fois, je l'ai démonté pendant la discussion. Et donc, Marty me disait, OK, tu l'as fait pour moi, mais c'est clair que tu ne veux pas de sage-femme. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a commencé à explorer un petit peu les options. Moi, je me sentais OK seule, mais je voulais quand même l'honorer lui aussi. Je sais que je lui ai pas donné beaucoup de place dans cette grossesse et ces décisions-là, mais c'était plus fort que moi. C'était vraiment... Je ne pouvais pas dire oui à une sage-femme qui allait complètement altérer mon espace de naissance. Mais je me dis, OK, est-ce qu'il y a des moyens de lui faire un petit peu de place quelque part ? Comment est-ce qu'on peut envisager ça ? Et j'avais déjà, quand j'ai rencontré Roxane et que j'ai fait les cercles de femmes enceintes qui se sont malheureusement terminées beaucoup trop tôt pour moi, j'étais à la moitié du... Non, début deuxième trimestre. Parce que les autres mamans étaient bien plus enceintes que moi, vu que j'étais en préconception le moment du début des cercles. Donc ça, c'était vraiment dommage pour moi. Mais on a eu un groupe WhatsApp après, qui était génialissime. Donc les premiers bébés qui commençaient à naître, les récits de naissance. Je connaissais un petit peu les choix de chacune. Et après, j'ai pu voir comment ça s'est matérialisé finalement. Et j'ai aussi vécu de près tout le stress d'arriver à terme. Même celle avec sage-femme, c'était prier pour moi, parce qu'à partir de demain, mes sages-femmes me quittent, que ce bébé vienne aujourd'hui. Je lui ai écrit une lettre, j'ai fait 3000 pompes, de 30 squats, mais il ne veut pas venir. Et je voyais ce stress de fin de grossesse et je me disais, oulala, mais dommage quoi, dommage. Alors que j'étais convaincue, d'après tout ce que j'avais lu et écouté, que d'elle, il n'avait aucun problème d'attendre plus longtemps, que les dates de terme sont aussi complètement... souvent, ne représentent pas le vrai terme, que nos bébés ne sont pas trop grands pour notre bassin. Enfin, j'avais quand même décousu pas mal de gros sujets, obstacles qu'on utilise pour... des interventions, finalement. Et dans cette recherche de comment est-ce qu'on peut faire autrement, moi, j'avais déjà proposé à Roxane, avant même d'y arriver là avec Bart, si elle voulait être présente à la naissance d'Erotea. Parce qu'elle est birth keeper. C'est vraiment quelqu'un qui... Une gardienne d'espace, c'est pas une sage-femme, c'est pas quelqu'un qui va donner son avis, c'est juste, elle vient comme une amie, une femme qui a aussi enfanté et qui est là, ou qui ne vient pas si on veut pas le jour J. Et avec cette présence-là, moi je me sentais bien. Et aussi je la connaissais, Roxane, je pouvais un petit peu l'imaginer arriver avec un gros bouquet de fleurs, enfin j'en sais rien, mais c'est un peu comme ça dans ma tête qu'elle adore les fleurs, donc... Mais finalement, quand Bart a dit « Ok, on va explorer ça », parce que Bart, il ne la connaissait pas du tout, Roxane. Moi, je parlais beaucoup d'elle parce que j'étais entourée d'elle et le cercle, etc. Mais en vrai, lui, il ne la connaissait pas. Donc, quand il m'a donné son accord de lancer l'échange vers un potentiel, qu'elle soit potentiellement présente à notre naissance, Roxane avait son deuxième enfant, un enfantement libre aussi, Penelope, et moi j'allais accoucher, enfanter, j'aime pas ce mot accoucher, mais ça continue, ça revient beaucoup trop. J'allais enfanter 3 mois après elle, et au début elle pensait que ça allait le faire, qu'elle allait faire même ma mama blessing et tout, mais finalement elle s'est dit non, je ne vais pas pouvoir me séparer de mon bébé pour être pleinement avec toi. Maintenant, je le comprends, mais à 100%. À l'époque, j'avoue que je venais de construire quelque part une image, des fleurs et tout. Enfin, je commençais à avoir les personnages clés dans mon lieu de naissance. Et un trou de nulle part. Et c'était un trou assez important parce que je n'avais pas d'option B. Tout le reste, c'était des sages-femmes et je voulais pas de ça. Je n'avais pas à cette époque d'amis. Maintenant, peut-être qu'il y aurait certaines que je pourrais appeler juste pour qu'elles soient là à côté de moi. Mais à l'époque, j'avais aucune amie à laquelle je pourrais dire « Eh ben tiens, est-ce que ça t'intéresse pas d'être là ?» Donc, je me suis retrouvée avec personne. Alors que je me disais « Enfin, on arrive à un truc où on peut laisser de côté le qui et comment et on peut pleinement profiter de derniers mois. » Ah, je me retrouve à commencer à partir de zéro. Mais heureusement, Roxane m'a mis en contact avec sa birth keeper à elle, Pimprenel, mm-hmm. que je connaissais absolument pas à l'époque. Mais j'en avais rien à perdre et c'était ma seule option de toute façon. Donc on a pris contact avec elle. Elle est venue nous rencontrer. Et pour moi, tout y était. Au début, ça m'a... Enfin, je manquais... Roxane me manquait un petit peu. Parce que, voilà, je m'étais projetée avec elle, je connais son caractère, elle est hyper joyeuse. Enfin, je voyais son énergie dans mon espace que je connaissais bien. Alors que Pimprenel, je venais de la rencontrer et je n'avais pas cette image complète de comment est-ce elle allait compléter notre espace. Mais j'avais écouté le récit de naissance de Roxane, j'avais parlé avec elle au téléphone, j'avais confiance dans le rôle qu'elle allait prendre dans cette naissance et je ne me sentais pas en danger comme avec les sages-femmes. Et finalement, c'était assez... Barty se sentait bien aussi, il voyait que... Bon, il était toujours un peu sorti de sa zone de confort, hein. C'était pas tout à fait ok pour lui. Mais il voyait que pour moi, il n'y avait pas d'autre option. De toute façon, on était trop loin pour embaucher une sage-femme. Et voilà, il avait qu'accepté ça, ou on allait être à deux. Et donc, c'était plutôt ok pour lui. Comme il voyait que c'était ok pour moi aussi. Et voilà. Et donc ça, c'était, je pense, faire 7 mois de grossesse. Donc j'avais encore de 2 mois et quelque chose de souffler et me dire que voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et on était tous à peu près OK avec ça.
OK. Génial.
Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt !